Paix et tout bien, amis auditeurs, Nicole à ce micro, je vous retrouve pour notre série franciscaine. Découvrir, bien sûr, avant tout, François d'Assise dans son itinéraire de conversion qui parle à tous les siècles et pour toutes les époques. Nous le voyons aujourd'hui, François est vraiment ce frère universel. Mais découvrons d'un peu plus près, grâce à un ouvrage magnifique de Julien Green, un historien qui a bien repris à partir des sources franciscaines et des biographes de l'époque, pour nous relater avec son talent eh bien, l'histoire de François, ses différentes étapes de conversion. Nous en étions arrivés à un moment charnière. François rend tout à son père, il est devant la place de l'évêché, et désormais, il ne veut plus avoir de compte à rendre qu'à Dieu seul, qui est lui son véritable père, en quelque sorte. C'est ainsi que François va le déclarer d'une manière très radicale. Voyons donc ensuite ce qui se passe. Vous verrez que bien, tout n'est pas toujours très facile, mais le Seigneur ne l'abandonne pas. Et c'est pour ça que François comptera beaucoup sur Sœur Providence. Mais écoutons.
L'accueil bénédictin. Voilà donc François, nu sous cette chemise que les brigands lui ont laissée par un reste d'humanité peut-être, et tout transi qu'il est, il n'en chante pas moins la louange du Seigneur dans les bois. Ira-t-il jusqu'à Gubbio par ce froid? La campagne a souffert d'inondations en cette fin d'hiver, et l'eau, quand ce n'est pas la neige tardive, recouvre encore les chemins. Il se souvient d'un monastère bénédictin dans les environs. Sans aucun doute, on y accueillera l'itinérant si drôlement vêtu. Mais l'ère des désillusions commence. Il fait mauvaise impression au moine qui lui ouvre. Pourtant, n'est-ce pas recevoir Jésus que faire entrer un pauvre? Alors on lui donne une grossière souquenille, autant dire une longue blouse de palefrenier, et on l'envoie aux cuisines laver la vaisselle. Là, au moins, il n'aura pas froid. Mais c'est à présent la faim qui le tenaille. Un morceau de pain lui est offert qu'il pourra tremper dans un pot de l'eau grasse réservée aux cochons. Cela lui permettra de tenir quelques jours. Puis il décide de partir, et la porte lui est largement ouverte. Soit dit à l'honneur de Saint Benoît, l'histoire nous rapporte qu'un peu plus tard, le prieur lui fit des excuses pour lui-même et pour les moines, lorsqu'il apprit qu'il avait hébergé un saint. Et l'on ne sait ce qui est le plus triste, de l'accueil ou des excuses, mais le pardon fut largement accordé avec amour. À Gubbio, François trouva celui qu'il cherchait, un ami d'autrefois qui se montra humain et le revêtit d'une tunique avec une ceinture, le chaussa de sandales et lui donna un bâton de pèlerin. S'agissait-il d'un ancien compagnon de fête? On le voudrait, mais il est beaucoup plus probable qu'il s'était connu en captivité dans les souterrains de Pérouse. Des allées et venues de François dans les semaines qui suivirent, nous n'avons que de maigres indices. Il ne pouvait tenir sur place. On eût dit que, ne voulant que suivre le Seigneur, il adoptait un itinéraire invisible qui le menait là où il était sûr de le rejoindre. Et comme il l'avait un jour embrassé sur la route dans la personne d'un lépreux, ce fut dans un hospice de lépreux qu'il alla le retrouver. On accepta qu'il soignât les pauvres malades. La joie surnaturelle qu'il habitait quand il lavait ces êtres torturés qui faisaient peur au monde, nous n'arrivons pas à nous la figurer. Il dépassait l'abnégation et le dévouement commun à ceux qui consacrent leur vie à la souffrance humaine. Saint Bonaventure, qui ne nous fait grâce d'aucun détail, nous dit que François ôtait des morceaux de chair pourrie, étanchait le pus, allait jusqu'à baiser les plaies comme il eût baisé les plaies du Christ, posant la bouche sur des bouches dévorées par l'atroce maladie, mais c'était au Christ en eux qu'il prodiguait ses marques d'amour, et elle lui était rendue au centuple. Nous nous sentons ici dans l'inimaginable. simplement parce que nous sommes d'une autre famille d'âmes et que les notions que nous avons de la sainteté sont brumeuses. Mais il n'est pas inutile de pousser jusqu'aux abords de la mystique horreur pour saisir le personnage qui bouleversa l'humanité chrétienne. San Damiano Revisited. Il n'oubliait pas la pauvre église que le Seigneur, pensait-il, lui avait dit de réparer. Et laissant les lépreux par obéissance, il revint à San Damiano pour y commencer les travaux. Mais la bourse pleine d'écus d'or n'était plus sur le rebord de la fenêtre, et les pierres s'obtenaient-elles sans argent? Problème. Mais pas pour lui. Avec cette simplicité qui nous émerveille encore, François s'en tint au conseil évangélique, et fort de la promesse de Dieu, il demanda afin d'obtenir. Mendier des pierres. Comment s'y prendre? Il se mit à parcourir les rues de sa ville en criant « Qui me donnera une pierre recevra une récompense du Seigneur. Qui m'en donnera deux recevra deux récompenses. Qui m'en donnera trois recevra trois récompenses. » Grand étonnement d'abord. Pour stimuler le bon mouvement de cette voix charmante que tout Assise connaissait, il chanta Dieu. Peut-être y eut-il des sourires et des moqueries, mais l'inattendu de la demande et la douceur de cette mélodie joyeuse finirent par agir, et les pierres apparurent, une ici, l'autre là. Il n'y avait pas si longtemps, on lui en jetait pour l'insulter et lui faire mal, avec le sentiment peut-être obscur de se venger de quelqu'un qui avait longtemps subjugué tout le monde par ses extravagances et son charme. Et à présent, on lui en apportait comme on offre un cadeau. Grosse ou petite, il acceptait tout, regagnant San Damiano avec sa récolte de pierres sur les épaules, épuisé, mais heureux. Une fois de plus, l'Évangile, pris à la lettre, manifestait l'efficace de la prière. La méthode était si simple. Que ne la suivait-on? Restait à présent, tâche plus rude encore, la réparation des murs écroulés. Mais là, François montra qu'il savait aussi très bien s'y prendre, ayant été à bonne école avec le peuple d'Assise quand il travaillait à construire les murailles de la ville après la démolition de la forteresse. Il avait en quelque sorte fait son apprentissage de manœuvre et de maçon. Et, comme il chantait alors dans l'exaltation de la victoire, il chantait aujourd'hui la joie d'obéir à ce qu'il croyait un désir du Sauveur. Trop âgé pour lui donner un coup de main, le desservant n'en fut pas moins ému d'une foi aussi rare et aussi zélée. C'était un bénédictin venu du couvent de Subasio, et, du moine ou de l'église, on peut se demander lequel fut le mieux édifié. En tout cas, il se chargea de nourrir cet homme de bonne volonté qui d'abord reçut avec gratitude cette marque de charité, puis, s'apercevant que le vieux religieux lui préparait des mets délicats, refusa poliment et prit le parti d'aller mendier son pain comme un vrai fils de dame pauvreté. On n'aimait guère les mendiants, mais par acquis de conscience, certains lui donnaient souvent n'importe quoi, des restes fort peu appétissants. François recevait tout avec de grands merci. Mais un jour, regardant ce qu'on lui avait jeté dans son écuelle, il crut qu'il allait vomir. La nature n'était pas encore domptée. Il prit bravement sur lui et mangea. La récompense vint aussitôt. À peine avait-il sur la langue cette immonde nourriture qu'elle lui parut délicieuse. À San Damiano, cependant, les curieux s'arrêtaient pour voir ce laborieux personnage qui chantait tout seul en mettant des pierres en place. Ils appartenaient à cette race d'hommes que rien n'intéresse comme devoir travailler le prochain. Mais le prochain en question ne l'entendait pas de cette oreille. Et avec cette gentillesse qui n'était qu'à lui, il invitait en français les oisifs à offrir au Seigneur un petit effort manuel. Les uns riaient et passaient. D'autres, reconnaissant avec stupeur dans ce maçon à la fois pieux et jovial l'élégant libertin de jadis, se sentaient pris d'émotion comme devant un mystère et lui venaient en aide. On a dit qu'il réussit même à former une équipe de travailleurs volontaires, mais c'est faire un large crédit à la générosité humaine. Bientôt, les murs se relevèrent. C'était au début de septembre 1206 qu'il s'était mis au travail. Et lorsqu'il eut fini, il se crut en règle avec Dieu de ce côté-là. En réalité, tout restait à faire. Naturellement, il devait continuer son œuvre de raccommodeur d'église en ruine. Avec un instinct de castor, il irait là où les murs menaceraient de s'écrouler. D'abord, San Pietro, une chapelle près d'une des propriétés de son père, dans la plaine d'Assise, où, jeune homme, il allait bien souvent chercher le frais dans les heures jaunes de l'été, et que nous pouvons situer grâce au testament de son neveu. Et le petit chemin qui conduisait à la chapelle menait dans l'autre sens à San Damiano, comme si les jours heureux de sa jeunesse étaient là, mis entre parenthèses par ces deux églises. Puis il y aurait la portion cul. Mais la première, San Damiano, et la troisième, la portion cul, devaient chacune jouer un rôle déterminant dans sa grande aventure humaine.
Voilà, mes auditeurs, il ne faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour voir en quoi, justement, cette première étape qui est de reconstruire les bâtiments, pierre par pierre, en quelque sorte, en quoi cette première étape sera donc un bel apprentissage pour François, pour apprendre à reconstruire le cœur des hommes. Mais nous n'en sommes pas encore là. Rendez-vous la semaine prochaine. Et comme François aimait à le dire à ses frères, que le Seigneur te donne la paix, qu'il tourne vers toi son visage et qu'il te bénisse. Satan.